réalités sont résumées dans une lettre écrite en 1907 par le curé de la paroisse Saint-Joseph d'Angers. Ce garçon, fils de meunier, Pierre Pétel, veut devenir prêtre. Ça tombe mal en 1907 à Angers. Pourquoi ? Parce qu'en 1906, l'évêque, pour ce diocèse, a ordonné, écoutez bien, 46 prêtres diocésains. Il n'a que faire d'un séminariste de plus. Alors, monsieur le curé dit, c'est un gros père tranquille qui déclare, j'irai n'importe où. Alors, n'importe où, ça va être chez les Capucins. Mais les Capucins, ils sont interdits en France à cette époque. Nous sommes en 1907, c'est-à-dire après les lois Combes de proscription des religieux. Il va donc faire ses études, secondaires d'abord, en Belgique. Et ce courage qu'il a puisé, d'abord dans sa tradition familiale. Il est enraciné dans un esprit de résistance. Ça remonte aux persécutions révolutionnaires dans la région du Bourdiret, dans la région de l'Anjou, où on a protégé des prêtres réfractaires. Et puis, c'est son rôle comme soldat pendant la guerre de 14-18. Il est recruté comme infirmier, mais il veut être brancardier. Savez-vous la différence entre infirmier et brancardier ? Eh bien, figurez-vous que les brancardiers vont en première ligne chercher les blessés. Il a beaucoup de citations. La dernière, résumons-la, un courage à toute épreuve. Donc, un garçon qui est capable de faire face au mépris de tous les dangers. Il l'a prouvé pendant la Première Guerre mondiale, il va le prouver pendant la Seconde Guerre mondiale.
Dès la fin de la Première Guerre mondiale, il fait partie de l'Association des Amis d'Israël. Qu'est-ce qui a éveillé en lui cet attachement au peuple grand frère dans la foi ?
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il est envoyé poursuivre ses études à Rome. Mon sentiment est que s'il avait vécu dans un couvent capucin de province, il n'aurait pas eu ses horizons aussi élargis. Une des raisons, c'est qu'il a une très bonne maîtrise de l'Ancien Testament et j'ai découvert aussi dans les examens qu'il a subis la récompense qu'il a obtenue en langue hébraïque. Elle est bien meilleure qu'en langue grecque. Il a la mention « summa cum laude probatur », la plus haute mention. Ceci l'amène à prendre conscience, avant d'autres, des racines de l'antisémitisme. Il est à Rome, ne l'oublions pas. En 1934, le pape Pie XI canonise un capucin bavarois, Conrad de Parzheim. Et dans la lettre du pape Pie XI, il y a une dénonciation de la fierté nationale exagérée, de l'orgueil des pensées, des doctrines et des pratiques. Tout cela, dit le pape, n'est ni chrétien ni humain. Ajoutons aussi une grande admiration pour le philosophe français Jacques Maritain. Or, Jacques Maritain, en 1935, publie « Le mystère des Juifs et des Gentils ». Ajoutons encore, bien sûr, l'encyclique de Pie XI, « Mit Brennender Sorgueux ». Et puis, bien sûr, il lit la nouvelle revue théologique de Louvain. Et dans cette revue, en 1939, il y a toute une série d'articles sur l'antisémitisme.
Et donc, cette conscience, ce sens du devoir que les Juifs devaient être sauvés pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que ça rentre dans cette même ligne d'amour pour Israël ?
Jusqu'alors, c'est une réflexion théorique. Les travaux pratiques, ça va commencer en 1940. À cause des difficultés entre la France et l'Italie, Mussolini déclare la guerre à la France. Il est rapatrié, il arrive à Marseille et très vite, on vient le voir pour sauver des Juifs. Alors, je me suis demandé pourquoi lui ? Après tout, il est inconnu à Marseille. Eh bien, on va le voir sans doute parce que militaire, en 1939, début 1940, il a fait la connaissance d'un officier israélite, israélite-français. Hein. Je crois qu'il est très important pendant la Seconde Guerre mondiale de faire la différence entre les israélites français qui s'estimaient protégés, qui pensaient ne rien craindre, et puis les juifs étrangers, polonais ou autres, qui étaient réfugiés en France. Donc, on vient le voir pour protéger des juifs, et voilà, ça commence à Marseille, ça continue à Nice, il fait souvent le va-et-vient entre Marseille et Nice, on lui demande jamais ses papiers. Je pense que sa prestance et sa robe de capucin, sa grande barbe, y contribuaient, et puis, surtout, ça va s'épanouir à Rome, il était prévu qu'il rentre à Rome, au couvent international, et là, il va jouer un rôle pivot dans le sauvetage des Juifs étrangers. On l'appellera Padre Benedetto, le père des Juifs, et il va passer à Rome de l'été 43 à l'été 44.
Concrètement, qu'a-t-il fait pour les Juifs et a-t-il été soutenu dans ses activités par les autorités de l'Église ?
Il faut fabriquer des faux papiers, trouver des caches, il faut trouver des connivences. Il y en a. Ne l'oublions pas, les Italiens ne participent pas du tout de l'antisémitisme qui était courant chez les peuples germaniques. Et quand il est envoyé à Rome, il fait un rapport à Pie XII. Pie XII s'étonne et dit, à propos de certaines arrestations, je n'aurais pas cru cela de la police française. Et ils vont s'en occuper. Le Saint-Siège va intervenir dans divers domaines, par exemple pour les Juifs espagnols. Et puis surtout, tout simplement, pour cacher au Vatican. Ici, on pense au cardinal Tisserand, des Juifs rentrés au Vatican, cachés dans le coffre de sa voiture. Mais le père Marie Benoît joue un rôle essentiel, au point que, quand Rome est libérée, eh bien, on cherche la clé de la synagogue. La tradition veut que ce soit lui qui l'ait.
Il y a également le fait qu'il soit devenu le 7e juste des nations françaises.
Ah, je crois que ça, c'est très important. Sur les 22 premiers, il y a 12 femmes et 10 hommes. Il y a 11 catholiques fervents et 5 protestants. Marie Benoît a été reconnue 30 ans avant le père Théomire Devaux, supérieur général de Notre-Dame de Sion, qui a sauvé plus de 400 enfants juifs. 30 ans avant. Et ici se pose en effet une question délicate. J'ai cherché à creuser un petit peu pourquoi on a mis 30 ans avant de reconnaître le père Devaux. Eh bien, le père Devaux, à la fin de la guerre, a freiné la restitution des enfants juifs placés dans des orphelinats. Au travers des témoignages que l'on peut recueillir, au travers du livre des justes, c'est un problème qui perce à divers moments. On voit très bien cette méfiance des juifs vis-à-vis d'un prosélytisme agressif. Alors que le père Marie Benoît, j'ai cité la lettre in extenso, écrit le 7 juillet 1945 à Monseigneur Ottaviani, « Ne nous pressons pas de baptiser des juifs. Ils nous méprisent pour cela quand nous le faisons. » Baptisons des adultes, et si c'est des enfants, obtenons l'autorisation des parents. Soyons très prudents, instruisons-les, sinon ils étaient de mauvais juifs et ils seront toujours de mauvais chrétiens.